bienvenue dans le News and Analysis de Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Dans cette émission, je vous offre accompagné d'un invité le décryptage d'une thématique pour mieux comprendre et anticiper les bouleversements de notre industrie. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce News and Analysis de Entreprendre dans la mode. Et aujourd'hui, je suis avec deux anciens de Entreprendre dans la mode, deux personnalités qui viennent régulièrement sur ce podcast. On a Clarisse Rey, donc la présidente du défi La Mode de France, et Pierre-François Lelouette, le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Et on va parler de cette étude qui vient de sortir, qui s'appelle Les nouveaux modèles économiques de la mode, qui a été co-créée par plusieurs institutions et financé par le défi, je crois. Et je vais vous laisser la parole dès à présent. Ma première question, c'est pourquoi faire cette étude sur les nouveaux modèles économiques de la mode?
Alors, pourquoi j'allais dire que c'était presque une évidence. Alors, il faut bien voir que cette étude a été voulue, souhaitée par les fédérations professionnelles, soutenue par le défi, avant le Covid. On ne savait même pas que le Covid pouvait exister. Donc, il y a 6 mois, et on était tous très conscients, par la proximité que nous avons des entreprises, qu'il y avait beaucoup de changements à l'œuvre et en profondeur, et qu'il était utile, nécessaire, de les mettre un peu au jour et d'en faire surtout quelque chose de très lisible pour les entreprises. Alors, est arrivé le Covid, qui a complètement validé tout le travail qui a été fait. Finalement, en 3 mois, c'est une accélération du temps de 3 ans. Je ne crois pas qu'il y ait un seul point qui nous ait surpris ou nouveau par rapport à ce qu'on entrevoyait avant. Et donc, c'est vraiment un travail global collectif avec toute l'expertise, une expertise extrêmement riche. C'est une des premières fois où toutes les fédérations se retrouvent ensemble. Le défi lui-même y a fortement participé avec toutes nos expertises. Et effectivement, on s'est appuyé sur KEA et l'IFM pour la réaliser. Mais c'était une nécessité.
C'était une nécessité, Adrien, parce que la question des modèles économiques, elle est absolument cruciale. On voit bien que depuis 10 ans, la consommation d'habillement baisse en France et qu'il y a bien sûr énormément de start-up, c'est mieux que personne, qui ont éclos dans ce monde et qui sont des succès aujourd'hui extrêmement importants. Mais c'est vrai que nous avions besoin de faire le point, en fait, là-dessus, que nous avions besoin de comprendre ce qui avait mené à ces succès, de voir s'il y avait eu des points communs, s'il y avait des règles, ou en tous les cas, des grandes pistes, des grands drivers qui expliquaient cette croissance. Donc, à la Fédération du prêt-à-porter féminin, on y a été toujours, évidemment, extrêmement sensible. Ça fait 4 ans maintenant qu'au défi, au sein du défi, on porte ce sujet des modèles économiques et que nous avons vraiment souhaité trouver. Et ça nous a pris un peu de temps, donc, pour trouver la bonne formule, les bonnes personnes, les bons mécanismes pour pouvoir faire un travail de qualité. Et je pense que collectivement, nous y sommes arrivés aujourd'hui et que collectivement, on peut être extrêmement fiers du résultat extrêmement intéressant de cette étude qui, comme le disait Clarisse, est sans équivalent.
D'ailleurs, comment on s'y prend pour faire une étude? Parce que ça paraît être un travail assez colossal. C'est des interviews. Comment on s'y prend pour faire une étude pareille?
En l'espèce, tous les présidents des fédérations et tous les administrateurs qui siègent au défi se sont mis d'accord sur des objectifs que nous souhaitions avoir pour cette étude. Et ensuite, nous avons fait un brief extrêmement précis à différents cabinets que nous avons auditionnés, des cabinets de conseil en stratégie. Et il nous est paru extrêmement intéressant de retenir KEA pour sa dimension méthodologique et pour sa très bonne connaissance du monde de la distribution notamment. Et puis l'IFM avec sa culture créative, avec sa culture académique également est venu compléter merveilleusement cet attelage assez inédit qu'est AIFM. Alors, dans le concret, plus de 300 marques ont été auditionnées au travers de différentes bases de données économiques, hein, que ce soit les bases de données du défi ou que ce soit d'autres bases de données pour nous permettre de comprendre les évolutions de chiffre d'affaires, l'évolution du résultat des entreprises, etc. D'identifier les entreprises qui avaient été les plus performantes dans ce contexte. Mais au-delà de cette analyse data, il y a également eu plus de 40 entretiens qui ont été réalisés avec des patrons de la filière dans tous les segments d'activité. Je dois dire que c'est le véritable top 40 de la mode française, le wouzou de la mode.
Après l'international aussi, un tout petit peu.
Oui.
En plus.
Et en plus. Mais on a eu la chance vraiment d'avoir une mobilisation remarquable de tout l'écosystème autour de cette étude, puisque toutes les fédérations ont ouvert leur carnet d'adresses pour faire en sorte que les chefs d'entreprise les plus performants puissent nous donner leurs secrets.
Alors nous, j'allais dire aussi, on a passé au crible les 3000 entreprises qui payent la taxe, hein, pour ressortir toutes les entreprises qui avaient sur 3 ans une croissance de chiffre d'affaires à 2 chiffres. Ensuite, nous avons donné, j'allais dire, une liste d'entreprises que l'on trouvait extrêmement intéressantes, soit en France, soit à l'étranger, parce que la caractéristique du défi, c'est effectivement d'être extrêmement transversal. Et à partir de ce travail d'échange entre fédération, défi et cabinet, on a mis en lumière aussi les grands thèmes qu'on voyait également surgir et évident, et qu'on voyait aussi, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, hein, on n'a pas été surpris par les conclusions qu'on voyait aussi poindre depuis plusieurs années.
Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude? Quels sont les grands apprentissages? Quelles sont peut-être les thématiques que vous avez souhaité tacler?
En fait, il y a 5 grands points qui ressortent très clairement pour pouvoir réinventer les modèles économiques. Le premier, c'est la culture d'entreprise et c'est la dynamique de transformation. C'est-à-dire que les entreprises performantes, on sait qu'elles baignent aujourd'hui dans une culture extrêmement dynamique, extrêmement agile, portée par un chef d'entreprise, portée au-delà du chef d'entreprise, par un chef d'entreprise qui est capable de transmettre son enthousiasme et sa volonté de transformation à une équipe, de la driver et de l'emmener vers demain. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai aussi que c'est vraiment pas le cas chez beaucoup d'entreprises qui parfois sont un peu trop ont un peu trop le regard dans le rétroviseur ou sont assez campées sur des certitudes d'un autre temps et n'ont pas compris des comportements, des référents avaient changé, une culture générale de consommation avait évolué, qu'il fallait être parfaitement en phase avec celle-ci. Le deuxième point qui nous paraît extrêmement important, c'est la mutation des chaînes de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut réinventer un calendrier de l'offre, ça veut dire qu'il faut bien sûr développer beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de réactivité dans la gestion de cette offre et dans toutes les politiques de sourcing liées à cette offre, et qu'il faut aussi, troisième point extrêmement important, se poser la question des soldes, des promotions, de la manière de réduire ce poids beaucoup trop important des soldes et promotions aujourd'hui dans l'offre, et d'envisager donc une vision beaucoup plus générale de comment se crée la valeur, comment connecter le produit, la valeur, le résultat lié à l'offre dans cet univers de la mode. Donc calendrier, flexibilité, optimisation des soldes et promotions. Le troisième point important, c'est de continuer et à mettre le client au cœur de toutes les stratégies d'entreprise. Le client, c'est le véritable actif des marques. Et pour bien le comprendre, il faut évidemment aujourd'hui utiliser les outils data qui nous permettent le mieux de l'appréhender et qui permettent aussi de beaucoup mieux piloter l'activité, piloter les investissements en fonction de ce client. Et on a détaillé un certain nombre d'outils aujourd'hui qui sont extrêmement bien utilisés par les chefs d'entreprise les plus performants pour pouvoir piloter cette valeur client extrêmement importante. Le quatrième point, c'est bien sûr la responsabilité sociale, environnementale des entreprises qui est au cœur de tous les modèles économiques de la mode. L'engagement, c'est bien. Les preuves d'engagement, c'est mieux. Donc là aussi, il faut rendre cet engagement RSE extrêmement opérationnel. Une manière de le faire, c'est bien sûr le Made in, et en particulier le Made in France, la question des savoir-faire, la question aussi de tous les nouveaux modèles économiques qui gravitent autour de la RSE. Je pense à la seconde main, je pense également aux modèles de location qui sont extrêmement bien étudiés dans l'étude en question. Enfin, le cinquième grand driver de cette transformation des entreprises, c'est l'innovation, ce sont les nouvelles technologies qui vont servir de booster pour demain. Il y a plein d'innovations qui sont totalement spécifiques à notre secteur. Je pense à des nouvelles fibres, à des tissus, à des logiciels qui sont dédiés, bien sûr, à tout un software qui est dédié à notre industrie. Il y a beaucoup vraiment de technologies qui viennent bouleverser notre secteur, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue organisationnel. Il s'agit vraiment de mettre en place des nouveaux partenariats, des partenariats industriels, des partenariats data, pour être beaucoup plus performant. Voilà, donc culture d'entreprise, mutation des chaînes de valeur, approche par une valeur très centrée sur le client, responsabilité sociétale des entreprises et innovation technologique sont les cinq grands drivers de cette transformation des modèles économiques aujourd'hui.
Alors, il y a en plus, c'est comme une matrice, hein, il y a aussi des caractéristiques transverses que l'on retrouve sur ces cinq thématiques. Il y a le fait, effectivement, de l'excellence opérationnelle, il ne faut jamais l'oublier. Il y a la singularité, je veux dire, les entreprises ont besoin d'une singularité, d'une histoire particulière à exprimer. Cette clarté de la cible client, la capacité aussi à exploiter la data, et donc ça, c'est vrai, j'allais dire, sur les cinq thèmes. Et cette culture agile d'innovation qui va bien, bien au-delà, j'allais dire, de l'innovation tech. C'est aussi une culture pour tester dans toute une série de domaines.
Très bien. Une fois qu'on a dit ça, comment on l'utilise, cette étude, quand on est un jeune créateur d'entreprise, on s'apprête à se lancer et à lancer son business? Et dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on utilise cet outil quand on est à la tête ou responsable d'une marque qui est là depuis quelques années et qui a besoin de modifier, de se changer? Comment on s'y prend?
Alors, cette étude, elle est vraiment faite pour tout le monde. Hein. Mais la première chose qui est extrêmement importante et qui est structurante également dans le cadre du document que nous avons publié, c'est d'abord d'identifier son segment sur le marché. Est-ce que j'ai envie d'être une marque de création? Est-ce que j'ai envie d'être une marque de prêt-à-porter premium, luxe abordable? Est-ce que je suis une DNVB? Est-ce que j'ai l'ambition de développer un réseau retail? Donc, on a là vraiment toute une... quatre ou cinq grands modèles économiques par segment de marché. Et en fonction de chacun de ces segments, nous avons identifié les facteurs clés de succès à différentes étapes de la vie de l'entreprise. Il y a des paliers, en fait. Hein, tu en as beaucoup parlé avec déjà beaucoup d'intervenants, mais on ne gère pas de la même manière, on n'a pas les mêmes priorités quand on est une marque de création et qu'on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires ou que l'on fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ou que l'on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les priorités sont différentes, les investissements sont différents. Et donc cette étude, pour chaque segment de marché et pour chaque palier en fait de chiffre d'affaires, elle va identifier quelles sont les priorités. Quels sont vraiment les points d'attention extrêmement particuliers que doivent avoir les chefs d'entreprise en fonction de ces différentes phases de croissance. Donc, elle est très opérationnelle, en fait, parce que je sois très jeune et que je fasse pas beaucoup de chiffre d'affaires ou qu'au contraire, je sois assez installé, il y a des études de cas, il y a des recommandations extrêmement opérationnelles pour permettre aux chefs d'entreprise de piloter leur activité. Ce qui est certain également, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle économique gagnant. C'est qu'il y a une multiplicité de modèles qui sont gagnants et qu'il y a des modèles hybrides. Donc, c'est vraiment à chaque chef d'entreprise, à chaque manager de se positionner dans cet univers et de voir, en fonction des chapitres, en fonction de son stade de développement, quelles sont les priorités les plus à même de l'aider à renforcer sa performance.
Alors, je crois qu'il faut effectivement rentrer. Alors, la façon d'utiliser cette étude, je crois qu'il est très important de lire la première partie avec les 5 thématiques évoquées Pierre-François pour s'en nourrir. Et après, dans la deuxième partie, d'aller cibler les cases où on est, où on voudrait être. Et donc, de regarder très attentivement, de lire, je vais dire, tout ce qui est dit, de lire les exemples. On a beaucoup insisté, nous, de notre côté, pour qu'il y ait les premiers pas soient mis en avant de façon extrêmement claire, pour que, effectivement, même les plus petites entreprises ou ceux qui veulent se lancer puissent s'y retrouver. Et ensuite, chaque fois dans cette étude, pour chaque segment, pour chaque degré de maturité, il y a des chiffres. Il y a des chiffres sur l'importance du wholesale, il y a des chiffres de croissance, il y a des chiffres sur les EBITDA, sur les dépenses marketing, pour que déjà une entreprise puisse se situer. Et ensuite, il faut effectivement, j'allais dire, s'imprégner, lire les parties où il est indiqué quels sont les leviers les plus importants. Donc, j'allais dire, une première partie intéressante à lire pour tout le monde sur les 5 thématiques, et ensuite, aller directement dans la deuxième partie sur le cas qui concerne son entreprise. Et après, effectivement, je veux dire, il n'y a pas de règle magique, il n'y a pas de baguette magique non plus, encore moins. Mais selon son histoire, selon ce qu'on est déjà, selon ses convictions, de finalement avoir une sorte de table de mixage sur qu'est-ce qu'on va activer en premier. Et ça, c'est vraiment la responsabilité du chef d'entreprise.
Parmi tout ce que, dans cette étude, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement surprise, et est-ce qu'il y a des modèles en particulier, pour être peut-être un peu plus concret à présent, d'essayer de nous donner des exemples d'entreprises ou de modèles qui vous paraissent vraiment complètement en ligne avec cette étude et qui l'a compris avant les autres peut-être?
En fait, pour chacun des segments de marché, on a identifié évidemment des marques que tout le monde connaît. Quand on parle par exemple des marques de création, on est rentré dans le détail du modèle Jacquemus, on est rentré dans le détail du modèle Off-White.
Oui.
Quand on parle de premium et de luxe abordable, on a des interviews extrêmement intéressantes du président de Bâche, par exemple, ou du président de Fusal, qui ont partagé avec nous les clés du succès de leur croissance. On fait des focus sur des marques digitales comme Bungle. On parle de Reformation aux États-Unis. Donc, on a identifié vraiment les marques qui avaient eu la plus forte croissance et on est rentré dans le détail de ce qui faisait le succès de chacune d'entre elles.
Alors, j'allais dire, c'est ce que... Sur la surprise, en tous les cas, personnellement, il n'y a aucun sujet aucune thématique, aucun prérequis qui m'a surpris. Hein, depuis, j'allais dire, on connaît bien le secteur, on s'en imprègne. Par contre, ce qui ressort de façon extrêmement claire, c'est effectivement, d'une part, c'est qu'aujourd'hui, le développement d'une marque va bien au-delà du produit, qu'il faut une singularité. Il faut se centrer, effectivement, avoir une vision extrêmement précise de sa cible client. Et la chose, j'allais dire, la plus puissante, la plus importante aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour du digital. Et le digital, ça ne s'arrête surtout pas à un site de e-commerce. C'est quelque chose maintenant qui imprègne toute la chaîne de valeur, dont on extrait des données. L'utilisation de la data tout au long de la chaîne de valeur est extrêmement précieuse. Elle se simplifie parce qu'on n'a plus besoin forcément d'être un as en informatique pour l'utiliser. Mais la data, notamment la data autour du client, pour connaître le client, connaître ses réactions, enrichir l'expérience client devient absolument clé. Et à partir de cela, d'ailleurs, le défi pendant, on a lancé pendant le confinement et on continue, des ateliers digitaux qui, de façon extrêmement pratique, permettent aux entreprises de prendre en main cette data, de savoir l'exploiter. Il faut bien voir que quand on parle de data, la data, elle permet aussi de réduire les risques pour une entreprise, pour une marque. Elle permet de réduire les risques. Elle permet aussi, compte tenu de, j'allais dire, l'agilité de la data, de faire du test and learn et de pas partir sur de grands tunnels de plusieurs mois sur certains concepts. Ce qui me frappe beaucoup dans les ateliers qu'on mène, c'est effectivement, je veux dire, ces outils. Il y a tout un tas d'outils d'accès simple qui permettent de lancer des tests et d'en tirer les conclusions dans la semaine. C'est-à-dire qu'une marque doit véritablement aujourd'hui être capable de penser sa marque, la profondeur de sa marque, le rayonnement de sa marque dans la durée, tout en étant capable de ses actions de test and learn sous la semaine pour avancer, pour progresser. Il n'y a plus ce concept très, très figé, très long. Il y a cet assemblage qui se fait, et effectivement, la data ne doit plus être considérée simplement sous le simple angle, même s'il demeure très important, du e-commerce, mais vraiment comment on peut utiliser la data. Et après, on peut remonter aussi la data, y compris dans la fabrication, etc., etc. Mais la data devient quand même clé, l'exploitation de la data, avec un message quand même très optimistes, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément de recourir à d'extraordinaires spécialistes d'informatique pour l'utiliser.
Un autre axe intéressant aussi peut-être qui est très souligné dans cette étude, c'est sa dimension internationale. C'est vrai que les succès dans l'univers de la mode ne sont pas exclusivement des succès français, évidemment.
Il n'y en a plus, je crois. Je crois que c'est plus possible pour une marque
d'être franco-français,
c'est plus possible.
Donc, on est allé à la fois interroger les patrons de marques comme Ganni. On a étudié les modèles de Reformation, de Off-White, de Fashion Nova, donc dans des spectres extrêmement différents, sur des segments extrêmement différents de cet univers de la mode. On en a tiré évidemment des enseignements qui valent pour beaucoup d'entreprises. On s'est aussi posé la question des modalités de l'internationalisation des marques quand elles grandissent. Comment est-ce qu'on rentre sur un marché? À quel rythme? Quels sont les marchés les plus intéressants aujourd'hui? Où y a-t-il du potentiel? Toute cette étude répond évidemment à ces questions, mais encore une fois, il n'y a pas une réponse unique, parce qu'en fonction du segment de marché sur lequel la marque est positionnée, les réponses ne sont pas les mêmes. Donc, c'est vraiment à chacun des chefs d'entreprise de trouver sa position et de mettre aussi son curseur là où il le souhaite pour pouvoir bénéficier des enseignements les plus opérationnels possibles de ce document qui, je crois, Clarisse, fera référence non seulement pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour nous, organisations professionnelles. On a là maintenant une boussole beaucoup plus claire pour pouvoir identifier les piliers stratégiques de l'action collective des institutionnels.
Effectivement, pour le défi, pour le conseil d'administration du défi et ses fédérations, dire nous allons nous en inspirer pour guider nos actions. Alors déjà, les actions y répondent beaucoup, mais d'avoir également, j'allais dire, un approfondissement. Donc ça, c'est extrêmement important. L'international, effectivement, il n'y a aucun succès cité dans l'étude qui est national. Ça n'est pas possible avec ce paradoxe apparent, mais quand on est dans le secteur, ça n'est plus un paradoxe. C'est que plus on est jeune et on est créatif, plus on est international. Beaucoup de jeunes marques extrêmement créatives sont pratiquement à 100% internationales. Et ce taux décroît à mesure que les entreprises grandissent, ou alors qu'on passe sur d'autres segments, avec le segment d'entrée de gamme qui lui a cet enjeu extrêmement fort, difficile, de comment créer un réseau de retail à l'international, avec tout ce que ça comporte comme risque et d'investissement.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Où est-ce qu'on peut la retrouver, cette étude? Comment on fait pour la trouver?
On la trouvera sur le site du défi, où oui. elle est téléchargeable, et sur le site prêt-à-porter.com, le site de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, où elle est également téléchargeable complètement gratuitement. Et c'est un cadeau qui est fait à tous les entrepreneurs de France de pouvoir bénéficier de cette riche manne pour pouvoir guider leurs actions. Je pense qu'on en a tous extrêmement besoin dans les temps tourmentés que vivent les entreprises de la mode aujourd'hui, et que cette étude est véritablement une boussole pour tout notre secteur. Elle rencontre un immense succès depuis l'annonce de son lancement. Au-delà de l'étude, toute une série de webinars est organisée par segment de marché, par thématique, pour pouvoir rentrer beaucoup plus dans le détail. Ces webinars connaissent aussi une audience extrêmement importante. Hein, le premier a rassemblé plus de 300-400 personnes, je crois. Donc, on est très fiers et très heureux de cet engouement. Il faut évidemment se rapprocher des sites, des organisations professionnelles dont tes auditeurs sont proches.
Sont friands.
Et sont très friands, évidemment, pour pouvoir trouver toutes les informations liées au webinar, pour rentrer dans le détail. Les webinars sont également retransmis en replay sur le site de la Fédération du prêt-à-porter, prêt-à-porter.com.
Alors, effectivement, ce que dit Pierre-François est totalement exact. Nous, on a déjà plus de 480 demandes de téléchargement de l'étude, donc en finalement 10 jours. Donc, cela montre bien quand on apporte des choses extrêmement profondes, précises, qui permettent à un chef d'entreprise d'agir, cela peut être intéressant. Et alors, évidemment, de côté des filles, on est très, très content d'avoir contribué à cette étude et d'apporter des clés véritablement d'action, d'évolution pour les entreprises. Et les prochains mois sont cruciaux. Hein, on sent bien cette accélération du temps. Il y a une nécessité d'évoluer rapidement. Et nous sommes tous convaincus que cette étude permet de le faire si on se l'approprie.
Très bien. Eh ben, à vos téléchargements, j'incite vraiment tout le monde à la lire. Moi, je l'ai déjà téléchargé, alors je ne l'ai pas lu en entier, mais je l'ai lu en travers, et c'est vrai que c'est vachement intéressant. Merci infiniment à tous les deux pour votre temps et pour cette étude. Et je vous dis à très bientôt.
Merci
Adrien. Bonne journée.
À bientôt.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.